Bienvenue sur
Little Books,
les petites voix littéraires.
Les petites voix littéraires.
Little Books,
une émission radio présentée par les élèves de Vallon-Pont d'Arc.
Bonjour, on va vous présenter Little Books, les petites voix littéraires, et on va commencer avec Luca et Lucas qui vont nous présenter la BD Roger et ses humains.
C'est une BD faite par Cyprien, youtubeur de plus de 14 millions d'abonnés, édité par Dupuis et illustré par Paca.
Roger est un robot qui a été livré par le père de Hugo qui est chômeur et qui surfe sur internet pendant que Florence, la copine de Hugo, travaille toute la journée. L'histoire se déroule surtout dans leur appartement et dans le monde d'aujourd'hui.
Nous aimons bien ce livre car le langage familier est utilisé et est compréhensible par tout le monde. Les dessins sont humoristiques et dessinés sans nez et à l'ordinateur. De plus, il y a des petits gags faciles à comprendre mélangés à une histoire avec de l'action.
Roger et ses humains est une BD comique et pleine de suspense car on ne sait jamais à quoi s'attendre. Roger fait énormément de gaffes et en plus, il ne sait absolument pas mentir. Hugo est un fainéant car il ne cherche pas de travail. Florence s'énerve beaucoup, elle est active car elle travaille et Roger est naïf car c'est un robot qui n'a pas de conscience.
Le livre est basé sur les bêtises et réponses inattendues de Roger. Quand il dit que Facebook est raciste car il regarde si vous êtes un robot ou un humain.
Nous avons lu ce livre en grand format cartonné, ce qui nous a plu car c'est plus lisible qu'un petit format. Nous vous le recommandons.
On fait une petite pause avec la musique Writing on the Wall de Sam Smith. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I won't be
Maintenant, Lola et Lali vont nous présenter la collection de Max et Lily.
Un sujet important, l'école avec Max et Lily.
Les livres Max et Lily sont des albums graphiques écrits par Serge Bloch. Les deux que nous allons vous présenter sont des sujets importants que l'on trouve dans le milieu scolaire. Ce sont essentiellement des livres pour les enfants. On va vous présenter
Max et Lily ne font pas leurs devoirs et Lily a peur des contrôles. Nous pouvons tous avoir peur des contrôles ou ne pas vouloir faire nos devoirs, mais la peur des contrôles peut se surmonter. On peut en parler aux professeurs, aux infirmiers, aux infirmières, aux parents ou autres personnes de confiance. Je trouve les personnages de Max et Lily très attachants car nous pouvons nous identifier à eux. Nous avons trouvé ce livre original car à l'intérieur il y a des petits conseils et de petites questions pour vous aider à vous sentir mieux à l'école.
Nous conseillons les tomes 52 et 62 de Max et Lily, car cela vous divertit en expliquant comment réagir à des sentiments comme la peur et le stress. Ils nous suivent sur les chemins de l'adolescence à travers leurs conseils. Par exemple, ils nous conseillent avant le contrôle d'apprendre sa leçon 3 jours avant et de nouveau réviser la veille. Et pour les devoirs, ne pas attendre la dernière minute et d'étaler son travail sur la semaine. Résumé du tome 62. Dans Max et Lily ne font pas leurs devoirs, ils trouvent beaucoup de prétextes pour échapper au travail qui les attend. Ceci va énerver leurs parents. Leur mère a rendez-vous avec la maîtresse, ce qui va faire peur à Max. Mais la maîtresse leur apprend que tout le monde peut se tromper et que les parents peuvent être autant stressés que les enfants. Morale, si les parents et les professeurs nous donnent des devoirs, c'est pour nous aider à progresser.
Le résumé du tome 52. Dans Lily a peur des contrôles, on vous explique qu'il faut réviser. Qu'elle, elle ne révise pas, elle stresse et va donc s'amuser pour oublier sa peur. Arrivée en classe pour effectuer le contrôle qu'elle n'a donc pas révisé, Lily perd ses moyens et ne le réussit pas. La morale serait que même si vous êtes stressé avant les contrôles, il ne faut pas abandonner et étudier pour y arriver.
Little Books, les petites voix littéraires
du collège de Vallon-Pont-d'Arc.
Et on enchaîne avec Marion et Clément qui vont nous présenter
le manga My Hero Academia.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter le manga My Hero Academia, écrit par Kohei Oyerokoshi, de catégorie shonen.
La version française a été publiée par Kiun. Le manga compte 31 tomes en japonais.
Les thèmes principaux abordés sont les super-héros, le courage et la détermination.
Petit résumé pour vous donner envie de le lire.
Izoku Midoriya est un grand fan du plus grand des super-héros, All Might. Son plus grand rêve est de rejoindre Yuei, l'académie la plus réputée du Japon. Sa vie va être bouleversée quand il rencontrera All Might en personne.
On vous conseille ce manga car on s'accroche au personnage. Il y a une bonne évolution qui en parle d'un petit garçon timide et sans pouvoir qui va au fur et à mesure devenir un des plus grands héros.
Ce qui nous a plu dans ce manga,
c'est que chaque personnage a un caractère et un pouvoir qui lui correspond très bien. Comme Izoku qui part de presque rien et qui, avec l'envie d'avancer, arrive à exaucer son rêve.
Tous les mangas sont à peu près 170 pages. Quand on lit ce manga, on rentre vraiment dans l'histoire.
On le recommande aux fans de super-héros et d'aventures. C'est un manga plein d'action et émouvant.
Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez aimé.
À la prochaine fois pour un nouveau livre.
Et on fait une petite pause musicale avec la musique Bay City.
Et vous êtes toujours sur Little Books, les petites voix littéraires. Et maintenant, Inès et Kili vont nous présenter le manga Petit Tanuki.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter le manga Le Renard et le Petit Tanuki, écrit par Mitagawa. Il a actuellement 5 tomes, dont un pas encore traduit en français. Le thème du manga est folklore, qui veut dire traditionnel, et c'est un type shoujo.
C'est l'histoire d'un renard doté d'une force époustouflante. La déesse du soleil le condamne à 300 ans de sommeil. Un jour, la déesse le réveille et lui donne un collier pour ne pas qu'il déploie ses pouvoirs terrifiants. À son réveil, ce n'est plus un renard, grand, majestueux, terrifiant, mais juste un petit renard avec un collier de boules rouges.
Le grand coq sage, envoyé par la déesse du soleil, lui annonce sa mission, qui est d'élever un métamorphe avec autant de pouvoir qui n'est autre que le petit tanuki. Le tanuki est une petite bête qui ressemble entre un panda roux ou un raton laveur.
Il est réputé pour ses grosses testicules. Nous trouvons que c'est un super manga malgré son air enfantin. Le manga a une très belle jaquette qui est différente à chaque tome. La jaquette est apaisante, elle est très agréable à regarder en raison des couleurs pastel.
Les commentaires que nous faisons sur ce manga, c'est qu'il ne change pas des autres thèmes. Il parle de la force de l'amitié, ce qui est lassant au bout d'un moment.
Il parle aussi de l'amour paternel, ce qui est rare dans un manga. Nous trouvons ça émouvant que ça parle de ça. C'est un manga qu'on ne peut pas lâcher, c'est un sujet palpitant.
Nous conseillons pour finir ce manga car il est adapté à tous les âges. Il change des shoujo habituels. Il est humoristique car il a des scènes drôles.
Little Books.
Little Books.
Les petites voix littéraires
du collège de Vallon-Pont-d'Arc. Silas va nous présenter le manga Dr. Stone.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du manga Dr. Stone. Ce manga est scénarisé par Eiichiro Inagaki et dessiné par Boichi. Sa première publication était au Japon en 2017, puis en France aux éditions Glénat en mars 2018. Dans ce manga, le jeune Senku, un lycéen mordu de science, se réveille 3700 ans après la pétrification du monde moderne et a pour objectif de rétablir une civilisation basée sur le savoir et la science. Mais pour cela, il aura besoin de son ami Taiju, un crétin à la force brute et au bon cœur, et de Yuzuriya, une couturière aux doigts de fée. Mais, comme vous vous en doutez sans doute, de nombreux dangers viendront s'interposer entre eux et leur objectif. Et je m'arrête là, car pour en savoir plus, il faudra lire le manga. Pour ma part, c'est un vrai coup de cœur, je peux plus le lâcher, et j'attends avec impatience le tome 20. Malheureusement, vers le dernier tome, on perd la dynamique du début.
Petite pause musicale avec la musique Sunday Bloody Sunday. Vous êtes toujours sur Little Books, les petites voix littéraires.
Mila et Pauline vont nous présenter le manga Spy and Family.
Bonjour à toutes et à tous.
Spy Family a été illustré par Tatsuya Endo et édité en France par Kurokawa.
Ce manga est un shonen. Les shonen sont une catégorie de manga destinée aux jeunes hommes adultes. Spy Family est sorti en mars 2019 au Japon,
en septembre 2020 en France et a été adapté en animé.
Pour l'instant, la série de manga compte 9 tomes.
Petit résumé. Twilight, un des plus grands espions du monde, a été chargé de tuer un homme politique pour éviter une guerre. Pour cela, il adopte une fille nommée Anya sans savoir qu'elle est télépathe.
Et engage une femme en guise de faux époux nommée Lior sans savoir que c'est une tueuse à gages. S'il engage une femme et adopte une fille, c'est pour essayer de faire rentrer Anya
dans la prestigieuse école Eden où se trouve la fille de l'homme qu'il doit tuer. Vont-ils réussir à former la famille parfaite ?
Twilight va-t-il réussir sa mission ?
Pour le découvrir, il faut lire le manga. Nous avons beaucoup aimé ce manga, car
nous adorons les histoires d'espions.
Il y a aussi du suspense, car nous ne savons pas si Anya et Yor et Twilight vont s'entendre.
Et on ne sait pas si Twilight va réussir sa mission.
Voilà, c'est fini pour ce manga. On espère que ça vous aura plu. Au revoir.
Une pause avec le thème musical de Ponyo sur la falaise.
Et on enchaîne avec Louise et Maïka qui vont nous présenter les films de Miyazaki.
Bonjour. Nous allons vous présenter Hayao Miyazaki, un des plus grands et célèbres mangaka du monde grâce à ses œuvres imaginaires et colorées.
Hayao Miyazaki, né le 5 janvier 1941 à Tokyo, est un dessinateur de manga et un réalisateur de films d'animation japonais. Hayao Miyazaki fut marqué par un Japon dévasté par la Seconde Guerre mondiale, ses œuvres en sont beaucoup inspirées.
Son père, Katsuki Miyazaki, était alors directeur d'une entreprise en aéronautique. C'est grâce à ce contexte que Miyazaki doit cette passion pour les avions et que ses thèmes sont omniprésents dans ses écrits.
En 1947, la mère de Miyazaki est diagnostiquée du mal de Pote, une forme de tuberculose. En quelque sorte, le film Mon voisin Totoro s'avère autobiographique. Dans Le vent se lève, la tuberculose touche Naoko Satomi, l'héroïne principale.
Dans ses œuvres, il explore les mêmes thèmes centraux, la relation de l'humanité avec la nature, l'écologie et la technologie, la difficulté de rester pacifique dans un monde en guerre, et les héros de ses histoires sont principalement de jeunes filles ou femmes fort indépendantes.
La première place du classement des films Ghibli est extrêmement subjective. Pour les personnes qui les ont découvertes tôt, elle pourrait être attribuée à Mon voisin Totoro, sorti le 8 décembre 1999. Nos trois œuvres préférées sont Le voyage de Chihiro, pour ses animations et sa mentalité. L'histoire parle de la famille et du passage de l'adolescence qui peut s'avérer difficile pour certains, certaines.
Princesse Mononoke, pour cette approche entre l'humain et la nature qui nous montre l'indifférence de l'homme face à la nature, qui se dégrade. Et enfin, Kiki la petite sorcière. La protagoniste est une adolescente dotée de pouvoirs magiques qui cherche son indépendance parmi la société et qui essaye de trouver sa place dans une ville qui lui est inconnue.
Certaines œuvres ont été inspirées de romans, tels que Le château ambulant inspiré du château de Hurle de Diana Wynne-Jones. Le voyage de Chihiro, inspiré de la Cité des Brumes oubliées de Sachiko Kashiwaba, et le film Le voyage de Chihiro est grandement inspiré de la saga du même titre de Hiko Kadono.
Hayao Miyazaki a beaucoup marqué les esprits avec ses histoires qui sont devenues des classiques.
Merci de nous avoir écoutés, à bientôt pour un nouveau livre.
Et nous allons faire une transition musicale avec Here Comes the Sun des Beatles.
Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling,
nous allons écouter un micro-trottoir du groupe Doréa.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur car il nous concerne. Nous allons vous parler des préjugés en équitation. Car nous en avons déjà reçu et que nous voulons montrer aux gens qui ne sont pas tous vrais.
Est-ce que pour toi, l'équitation, c'est un sport ?
Alors pour moi, évidemment, l'équitation, c'est un sport. C'est comme toute pratique. Par exemple, c'est comme de la gym. Forcément, on ne fait pas travailler les mêmes muscles, mais c'est aussi un sport comme toutes les activités qu'on fait en extérieur ou en intérieur.
Je pense que oui, puisque ça a l'air difficile. Faut faire apprendre les chevaux à sauter, faut apprendre.
Oui, tout à fait. L'équitation est un sport même olympique. Et il y a une préparation sportive autant pour le cheval que pour le cavalier. Ce n'est pas simplement monter sur un cheval et sauter des obstacles. Il y a toute une préparation en amont, savoir sur quel pied le cheval doit attaquer l'obstacle, comment il doit réceptionner, le cavalier doit l'amener correctement en face de l'obstacle. Mais oui, c'est un vrai sport.
Oui, l'équitation est un sport car il a été reconnu comme tel par la Fédération française d'équitation.
Et que quand on monte à cheval, on a des courbatures.
Est-ce que tu penses qu'on fait du mal aux chevaux quand on les monte ?
Alors non, je pense pas, parce que l'homme a toujours été à cheval et a toujours utilisé les chevaux comme moyen de transport ou pour utiliser dans les champs et tout ça, donc non, je pense pas.
Non, puisqu'ils sont habitués.
Et tu penses pas qu'avec la cravache et la chambrière ou les éperons, c'est des choses qui peuvent peut-être faire mal, non ?
Bah peut-être, mais c'est pour faire réagir le cheval.
Oui et non, car cela dépend comment on monte les chevaux. Par exemple, on leur fait du mal quand on tire fort sur les rênes ou qu'on donne de gros coups de talon.
Oui, mais ça dépend des personnes, car il y en a qui prennent soin des chevaux et d'autres non. Par exemple, ceux qui utilisent trop la cravache ou les éperons.
Quelle discipline t'impressionne le plus ?
Alors en tant que cavalière, la discipline qui m'impressionne le plus, c'est le CSO, parce que je trouve qu'on a une sensation incroyable quand on saute.
Je pense que c'est la voltige. Parce que ça, c'est vraiment très impressionnant de voir des personnes tenir debout sur un cheval en plein galop.
La discipline équestre qui nous impressionne le plus est la voltige, car les cavaliers sont en danger quand ils dansent et font des figures complexes, et le cross, car le cheval ne peut pas toujours voir ce qu'il y a derrière l'obstacle. L'obstacle est fixe, et s'il tape dedans, il peut se faire très mal, et les obstacles sont souvent larges.
Maintenant que nous vous avons parlé de ces préjugés, nous espérons que ça vous a ouvert les yeux sur le monde de l'équitation. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois.
Il n'y en a qu'une. Une qu'on a lue et relue dans toutes les langues de la nuit. C'est là, c'est là, c'est la lune.
Et maintenant, un peu de poésie avec l'auteur David Dumortier. présenté par les élèves Flora, Cyrielle et Lali.
Nous allons vous présenter Médime et du rouge à lèvres de David Dumortier. C'est un recueil de poèmes en prose avec beaucoup d'illustrations qui accompagnent les textes et qui sont très colorés. L'auteur démontre les différences mais évoque surtout la discrimination et le sexisme par le message du rouge à lèvres. L'auteur s'appuie sur des histoires vraies.
Mehdi est un petit garçon qui aime mettre du rouge à lèvres. Tout le monde va se moquer de lui à l'école à cause de son apparence, sauf Rosalie qui va être une amie de confiance. Mais surtout, elle aime Mehdi d'un amour très fort.
Mais vous verrez, Mehdi ne va pas se laisser faire. Il va surmonter les épreuves, il va se montrer plus fort que ses camarades qui le harcèlent partout, tous les jours.
Ce recueil évoque plusieurs thèmes, la confiance en soi et un mental, un courage hors norme qui redonne foi et confiance en les relations humaines, comme Mehdi et Rosalie s'entraident.
Nous allons vous donner notre avis sur ce livre. Nous trouvons que c'est un style de livre très original et très agréable à écouter. Nous avons bien aimé. Nous allons vous lire un petit extrait. C'est Léo qui a apporté le mot à l'école. Mehdi est un PD, voilà le mot. Grâce à lui, on sait ce que c'est. C'est quand deux garçons se font du bouche à bouche. Tout le monde a fait un « Ouh » à Mehdi pour se défendre. Mehdi a crié « C'est qui veut faire pompier quand il sera grand ?» Il a compté 7 doigts levés. Puis il a dit « Vous aussi, vous ferez du bouche à bouche dans un accident. »
La bande à Léo avait bien préparé son coup. À eux cinq, ils ont tendu une embuscade à Mehdi. Tout s'est passé très vite. Léo lui a pris le cou par derrière et ses complices l'ont jeté au sol. Ensuite, ils lui ont donné de bons coups de pied dans le ventre et dans la figure. C'est vraiment dégueulasse. Le moins fort d'entre eux en a profité pour lui écraser sa montre marguerite. Les grands arbres ont dressé leurs cheveux de colère. La bande à Léo s'est enfuie comme une tempête. Mehdi s'est relevé en marchant sur les morceaux de tuiles envolés.
C'est un petit grain triste, resté au fond de la gorge, un petit grain de chat qui dit « je t'aime encore et toujours ». C'est un chagrin d'amour.
Little Books,
les petites voix littéraires du Collège de Vallon-Pont-d'Arc.
Salomé va nous présenter la rubrique Japan Lecture, fan service.
Bonjour, merci d'écouter Japan Lecture. Aujourd'hui, nous allons parler de fan service, chose que vous connaissez sans doute. Le fan service est essentiellement trouvé dans les mangas. C'est une pratique utilisée par les auteurs pour alimenter la passion des fans, avec des contenus souvent érotiques, bon, olé olé, par exemple les femmes en maillot de bain, etc., etc. Vous retrouverez souvent cette pratique dans les shonen, c'est d'ailleurs une des choses les plus caractéristiques. Même si dans certains shoujo, on peut aussi trouver du fanservice, et de plus en plus dans la communauté générale des mangas. Par ailleurs, on pourra noter que le fanservice n'est pas du contenu qui fait avancer l'histoire, et qu'il est généralement très superflu. Les mangas les plus connus dans lesquels on retrouve du fanservice sont par exemple One Piece, Fairy Tail, ainsi que Dragon Ball, sans doute l'un des premiers à l'avoir utilisé. Un peu moins connu, mais pas des moindres, nous avons aussi Danmachi, ainsi que Kaijo. Bien moins connu par la communauté française, mais pas moins rempli de fanservice. Par ailleurs, il est conseillé de prendre le fanservice de Kaijo sur un ton humoristique, car à ce point-là, il est vraiment exagéré. Continuation de cette petite liste, je tenais à parler du fanservice masculin, qui est assez peu abordé lorsqu'on parle de fanservice. Pourtant, le fanservice masculin peut être très présent dans beaucoup d'animés ou dans beaucoup de mangas qu'on peut lire, comme les abdos de Grey par exemple, dans Fairy Tail. Ou encore dans un animé assez connu de sport, Free, dans lequel on voit des hommes en maillot de bain avec leurs abdos très clairement exagérés, etc. Donc dans le fanservice, il n'y a pas que des boobs, il y a aussi des abdos. Je tiens à souligner qu'il n'y a absolument aucune utilité au fanservice. On peut très bien regarder une série sans fanservice ou sans simplement le remarquer parce que ça n'a pas particulièrement d'intérêt. Sauf lorsque c'est quelque chose que vous recherchez dans une série. Or là, je ne peux pas dire que ça ne vous plaît pas. Sur cette conclusion, je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir écouté Japan Lecture.
Little Books,
les petites voix littéraires
du Collège de Vallon-Pont-d'Arc.
Et nous allons terminer par une interview du bibliothécaire de Vallon-Pont-d'Arc.
Bienvenue dans l'émission Little Books, les petites voix littéraires présentées par les élèves de Vallon-Pont-d'Arc.
Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Cordinal, le bibliothécaire de Valentin d'Arc. Bonjour.
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 Donc nous allons poser des questions par rapport à votre métier et par rapport au livre, votre rapport au livre.
Très bien.
Donc on va commencer par la première question.
Alors, en quoi consiste votre métier de bibliothécaire ?
Alors, en tant que bibliothécaire donc à la commune de Valentin d'Arc, je suis le responsable de la bibliothèque municipale. Je m'occupe donc du choix des livres, de l'acquisition des livres et de leur mise en rayon, de l'accueil du public, et puis de l'animation de la bibliothèque pour recevoir les écoles, la crèche, le collège éventuellement.
Comment vous est venue l'idée de devenir bibliothécaire ?
Alors, j'ai toujours aimé les livres et j'avais envie de travailler dans le milieu du livre sans avoir forcément l'idée d'être bibliothécaire au début. À un moment, j'ai pensé être documentaliste dans les collèges et les lycées. Et puis, finalement, j'ai choisi la voie bibliothécaire, mais j'aurais pu travailler dans d'autres domaines du secteur du livre.
Est-ce que le métier de bibliothécaire est difficile ?
C'est particulier parce qu'il faut faire beaucoup de choses et beaucoup de choses différentes. Il y a de l'animation, il y a de l'accueil du public, des travaux très techniques hein, comme le catalogage des livres dans l'ordinateur, la mise en rayon des livres, l'équipement des livres. Donc c'est très intéressant parce que c'est des tâches qui sont très variées, mais c'est aussi la difficulté, c'est qu'on fait il faut être capable de faire plein de choses différentes.
Faut-il faire des études spécifiques pour devenir bibliothécaire ?
Alors, il faut passer les concours de la fonction publique. Donc, il y a des concours de trois catégories de la fonction publique, A, B ou C. Et il faut avoir un de ces concours pour pouvoir être embauché dans une bibliothèque municipale, puisque c'est un emploi public. Il y a aussi moi, j'ai aussi une formation à l'université. Voilà, un DUT métier du livre.
Quelle était votre matière préférée au collège ou au lycée ?
Alors, ça n'avait rien à voir avec les livres. Moi, c'était les mathématiques, ma matière préférée.
Ah. Environ combien de personnes viennent à la bibliothèque par jour ?
Alors, par jour, ça peut être très variable, suivant si j'accueille des groupes ou pas. Mais d'emprunteurs par semaine, j'ai à peu près 150 emprunteurs par semaine.
Quel type de personnes viennent le plus à la bibliothèque ?
Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un type de personnes. Il y a des types de personnes qui viennent à la bibliothèque. Il y a beaucoup de familles avec les enfants. Mais il peut y avoir aussi des adultes, des personnes âgées, des retraités. Et puis, j'ai aussi des groupes qui viennent. Hein. Donc, comme je vous disais, je reçois les enfants de l'école, je reçois les enfants de la crèche, du centre de loisirs. L'accès à la bibliothèque est totalement libre et gratuit et donc c'est ouvert à tous.
Quel est selon vous le meilleur endroit pour lire ?
Ah, le meilleur endroit pour lire, moi j'aime bien me caler dans un recoin avec des coussins, tranquillement, sans personne pour me déranger.
Confortablement.
Confortablement, oui.
Quel est selon vous le meilleur moment de la journée pour lire ?
Pour tout vous dire, je lis un peu tout le temps, j'aime lire tout le temps. Mais j'aime bien le soir, quand on est tranquille, quand on a fini sa journée, prendre un livre pour se détendre, c'est bien.
Et du coup, nous passons à la dernière question. Quel est votre livre préféré et pourquoi ?
Ah, alors là, mon livre préféré, ça va être difficile, j'en ai beaucoup. je peux vous parler de celui que mon préféré en ce moment. C'est une bande dessinée qui date des années 80, et qui s'appelle Alexis McCoy, qui a été créé par deux auteurs, Palacios et Gourmelaine, et qui raconte les aventures d'un soldat confédéré à la fin de la guerre de Sécession, qui va être intégré dans l'armée des États-Unis et qui va vivre plein d'aventures. Donc voilà, c'est un western qui se passe...
Un peu comme les Tuniques Bleues.
Un peu comme les Tuniques Bleues, mais dans un style beaucoup plus réaliste.
Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions et...
Bon après-midi.
Bon après-midi.
Merci, bonne journée à vous aussi.
À bientôt dans Little Books.
Little Books.
Une émission présentée par...
Les Petites Voix Littéraires.
Du Collège de Valentin d'Arc.
Thank you.
Merci de nous avoir écoutés.
À bientôt pour de nouvelles chroniques.
Le programme radiophonique Little Books est un programme soutenu par le département de l'Ardèche dans le cadre des projets APK.